Bonjour et bienvenue sur Radio Évasion. Nous vous partageons ici une lecture du livre « Comment la police interroge et comment s'en défendre », écrit et publié par le projet Évasion. Le livre est découpé en 6 chapitres, il y a donc 6 épisodes. Pour une meilleure compréhension, nous vous conseillons de les écouter dans l'ordre. Le livre n'est plus en stock chez nous, mais une version PDF est disponible librement sur notre site www.projet-evasion.org. Pour nous contacter, vous pouvez nous écrire à evasion@riseup.net, evasion E-V-A-S-I-O-N-S, @riseup.net, R-I-S-E-U-P.net. Un grand merci pour l'enregistrement et bonne écoute.
Pendant l'interrogatoire. Ce chapitre examine la pratique spécifique de l'interrogatoire, la préparation, les techniques et les stratégies.
Chapitre 4. Préparation. Sous-chapitre 1. Profilage.
Avant tout interrogatoire, les inspecteurs, inspectrices en charge du dossier vont dresser un profil de la personne auditionnée. En fonction de l'importance de l'enquête, ce profil pourra être très détaillé et précis, ou au contraire constitué uniquement de quelques traits de caractère grossiers. Pour se faire une idée du comportement que tu pourrais avoir lors de l'interrogatoire, toute information disponible sur toi est bonne à prendre. Situation financière, parcours scolaire, environnement social, relations familiales et professionnelles, passion, sensibilité et valeurs morales. Si tu as déjà eu affaire à la police, les procès-verbaux de tes précédents interrogatoires vont être parcourus afin d'anticiper tes réactions. Si tu as été arrêté et placé en garde à vue avant ton interrogatoire, les agents-agentes seront attentives à ton attitude à leur égard, au niveau de stress et d'anxiété que te provoque la privation de liberté, à la facilité que tu as de t'exprimer, au choix des mots que tu utilises. Les informations disponibles sur ton état médical, alcoolisme, toxicomanie, maladie chronique, etc., sont également des informations utiles pour l'enquête autant que pour l'interrogatoire. Certains corps de police reçoivent des formations basiques de psychiatrie afin que les enquêteurs-enquêtrices soient capables de créer un profil psychologique de la personne interrogée en exploitant ses troubles psychologiques tels que la dépression, la bipolarité ou encore la schizophrénie. Tu ne connais rien des policiers et policières en face de toi. Eux, elles, par contre, auront une idée assez précise de qui tu es. C'est le propre du renseignement. Cumuler des informations afin de gagner un avantage stratégique et une emprise sur son adversaire.
Sous-chapitre 2. Classification des informations.
Je sais que tu sais ce que je sais que tu sais, pensée policière. Contrairement à toi, les inspecteurs-inspectrices ont connaissance du dossier d'enquête. Cela leur procure un avantage non négligeable. Lors de la mise en place de leur stratégie d'interrogatoire, les enquêteurs-enquêtrices vont répartir leurs connaissances en trois niveaux.
Premièrement, les informations qui peuvent ou doivent être transmises. Deuxièmement, les informations qui peuvent être transmises si cela peut te pousser à donner des informations en retour. Troisièmement, les informations qui ne doivent en aucun cas être transmises.
Les informations de la deuxième catégorie te seront données si les policiers et policières estiment que cela leur donnera de nouvelles informations en retour. En clair, s'ils pensent que cela va aider à te faire parler. J'ai souvent entendu des personnes affirmer répondre aux questions de la police avec l'intention de pouvoir soutirer des informations sur l'état de l'enquête sans en donner eux-mêmes. C'est une vision qui me paraît dangereusement optimiste, surtout lorsqu'on sait que les inspecteurs-inspectrices font l'effort de lister les informations à ne pas donner aux suspects. D'autant plus que l'une de leurs stratégies consiste à exploiter une trop grande confiance en soi. Parole de flic. Les éléments que tu as, tu n'es pas obligé de tout dévoiler d'un coup. Tu te sers de ce que tu as une boîte à outils si tu veux. Alors des fois, tu n'as rien dans ta boîte à outils, c'est une partie de poker. Des fois, tu as des éléments, mais ces éléments-là, tu n'es pas obligé de les lâcher d'un coup. Il faut les sortir au bon moment. Le travail consiste en ça. L'expérience, c'est ça. c'est d'arriver à sortir les outils au bon moment et de t'en servir avec adresse.
Exemple. Premièrement, les informations qui peuvent ou doivent être transmises. Tu es inculpé pour émeute, manifestation non autorisée et dommage à la propriété. Deuxièmement, les informations qui peuvent être transmises si cela peut te pousser à donner des informations en retour. Tu es spécifiquement suspecté d'avoir participé au pillage d'un magasin lors de la manifestation en question. Troisièmement, les informations qui ne doivent en aucun cas être transmises. Ton téléphone est mis sous écoute, ce qui a permis à la police de savoir avec qui tu étais à la manifestation. Des perquisitions et arrestations sont dès lors prévues.
Sous-chapitre 3. Anticiper les stratégies de défense.
Dernier élément de préparation à un interrogatoire. Suite à l'étude de ton profil, anticiper tes stratégies de défense. Est-ce que tu risques de présenter un alibi qu'il s'agira de vérifier avant de continuer la procédure ? Vas-tu t'engager dans la voie du mensonge ? Essaieras-tu de couvrir tes amis ou vas-tu au contraire accuser un complice ? Vas-tu partiellement avouer les faits dans l'espoir de dissimuler une partie de la vérité ? Auras-tu la bonne idée de te protéger par le silence et le refus de répondre à leurs questions ? Comment vas-tu réagir lorsque tu seras confronté à tes mensonges, aux éléments de preuve, aux déclarations de co-accusés ou de témoins ? En fonction de tous ces éléments, les inspecteurs-inspectrices vont choisir quelles stratégies et techniques d'interrogatoire utiliser contre toi et lesquelles laisser de côté.
Chapitre 5. Technique générale de manipulation.
La manipulation consiste à construire une image du réel qui a l'air d'être le réel. Philippe Breton. Je définis le terme de manipulation comme une intention d'influencer et de contrôler les impressions, les pensées et les choix d'une personne pour son propre bénéfice. Manipuler une personne, c'est lui refuser la liberté d'un choix libre et en conscience. Un antagonisme, donc, avec l'idée anarchiste que tout individu est légitime de mener une vie libre, par et pour lui-même. Depuis plusieurs années, la psychologie sociale nomme et pointe des schémas récurrents de manipulation qui, selon le contexte, prennent un nom différent. Harcèlement, dans un contexte d'oppression patriarcale, mobbing, lorsque la manipulation se fait dans un cadre professionnel, abus et relations toxiques, si l'on parle de relations affectives. La pratique de l'interrogatoire policier s'inscrit parfaitement dans ce panel des différents contextes de manipulation. Un interrogatoire est une interaction vécue dans la contrainte et basée sur un rapport de pouvoir inégal. La police se sert des techniques de manipulation couramment utilisées dans l'ensemble des autres contextes précédemment cités. Il existe cependant une nuance entre les techniques et les stratégies de manipulation. Les techniques sont des éléments de manipulation concrets et courts, la construction d'une phrase, une intonation. Les stratégies sont pensées par une temporalité plus longue, pouvant englober l'ensemble de l'interrogatoire, voire même plusieurs interrogatoires. Voici une série de techniques de manipulation utilisées notamment lors d'interrogatoires.
Sous-chapitre 1. Engendrer de la sympathie.
Une partie des stratégies policières nécessite un sentiment de sympathie de la personne interrogée envers les policiers et policières. Cela demande un virage à 180 degrés par rapport à la réalité. Malgré le fait qu'ils, elles, enquêtent sur toi, te surveillent, t'enferment et cherchent activement des éléments de preuve permettant ensuite à la justice de te punir, ils, elles, tentent de te convaincre qu'en réalité, ils, elles, te veulent du bien et te respectent. L'objectif étant de baisser ton niveau de méfiance afin de te rendre plus perméable aux stratégies basées sur le lien interhumain entre policiers, policières et suspects. Comment se rend-on sympathique? Les sociologues qui se sont penchés sur cette question ont noté plusieurs facteurs ayant une influence certaine et cependant inconsciente chez la plupart d'entre nous. L'apparence physique, la présence de points communs, ce policier a un fils comme moi, cette policière supporte le même club de hockey que moi. Une certaine familiarité, des associations positives à leur contact. Le policier qui te fait la « faveur de te donner à manger alors que tu as très faim sera associée au plaisir de pouvoir enfin manger. La flatterie fait aussi partie de l'arsenal de manipulation des enquêteurs-enquêtrices. Contrairement aux compliments, la flatterie a pour but de te séduire pour t'inciter à une chose spécifique. Cela te met en confiance, te fait baisser la garde et te place dans des dispositions positives pour la suite.
Sous-chapitre 2. Principe de réciprocité.
Lorsqu'on t'offre quelque chose, il est normal de rendre en retour. Norme sociale. Le principe de réciprocité se construit sur la norme sociale stipulant que lorsque tu reçois quelque chose, tu as une obligation de donner en retour. Nous apprenons tous et toutes cette norme au travers de notre éducation. Si tu acceptes de prendre, tu dois donner en retour. Si tu déroges à cette injonction, tu t'exposes à une pression sociale négative ainsi qu'à un fort jugement. Tu pourras par exemple être qualifié d'égoïste, profiteur, profiteuse, parasite, malpoli, ingrate. Dans cette technique de manipulation, c'est le sentiment de dette qui est exploité, créé par le fait d'avoir reçu quelque chose alors même que cela n'a pas été demandé. Lors de l'interrogatoire, cette technique est utilisée dans un rapport de force particulièrement inégal. Les faveurs que t'offrent certaines inspecteurs-inspectrices compensent en réalité des manques créés par ces mêmes inspecteurs-inspectrices au travers de ta détention. T'amener un verre d'eau, te permettre de faire un appel, de recevoir de la visite ou un livre, autant de faveurs utilisées pour créer en toi un sentiment de redevance. Dès la première hésitation à répondre à leurs questions, ces faveurs te seront rappelées avec l'attente que tu rendes à présent la politesse.
Sous-chapitre 3. Écoute aversive.
L'écoute aversive, c'est quand le ou la policier et policière qui t'interroge regarde ailleurs ou fait autre chose pendant que tu lui parles. C'est ne pas lever la tête vers toi lorsque tu arrives dans la salle d'interrogatoire. L'idée derrière cette attitude est simple. Déstabiliser, créer une sensation de gêne et te donner l'impression que ce que tu dis n'a aucun intérêt et que cet interrogatoire ne représente rien d'important, uniquement un ennuyeux protocole de routine à accomplir. Mais aussi que leurs idées sur toi sont déjà toutes faites. En réaction à cette attitude, tu peux vouloir à tout prix attirer leur attention et te justifier sur ce qui s'est passé. Ce faisant, tu livres peut-être bien plus d'informations que ce que la police aurait pu tirer de toi avec une attitude confrontative.
Sous-chapitre 4. Prêcher le faux pour connaître le vrai.
Cette technique consiste à poser une question en y incluant sciemment un élément erroné. L'objectif est que ta volonté de rétablir la vérité te pousse à donner plus d'informations que si on t'avait posé la question de manière plus neutre. Examinons ces deux questions. 1. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Paris ? 2. Vous êtes-vous rendu à Paris pour voir une amante ? La première question ne semble pas poser d'enjeu émotionnel particulier, ni dans la question, ni dans la réponse. C'est une question ouverte et plutôt neutre. Visiblement, la police cherche à savoir ce que tu es allé faire à Paris.
Lors de la deuxième question, la police suggère déjà savoir ce que tu es allé faire à Paris. Cela crée donc l'insinuation que tu as bel et bien un ou une amante. Les policiers-policières qui te posent cette question savent pourtant pertinemment que tu ne t'es pas rendu à Paris pour cette raison. Toutefois, elles ignorent la vraie raison de ta visite et espèrent que, poussées par la volonté de te justifier, de rectifier un élément erroné, ta réponse soit plus complète que si la question avait été formulée de manière neutre.
Parole de flic. L'interrogatoire est comme une partie d'échecs ou une partie de poker, comme tu veux, donc tu as le droit de bluffer. En face de toi, tu as des joueurs, tu as des gens qui ne te disent pas forcément la vérité, toute la vérité, ou qui l'arrangent à leur façon. Toi, tu as des cartes en main. Le mec ne sait pas forcément quelle carte tu as en main, donc tu peux bluffer, tu peux prêcher le faux pour savoir le vrai. Tout dépend de l'inspecteur. Il y en a qui vont jouer la menace, d'autres qui vont prêcher le faux pour savoir le vrai. Moi, je suis dans la réalité.
Sous-chapitre 5. Créer de la suspicion. Ce n'est pourtant pas ce que nous a raconté votre ami. Insinuation policière. Créer de la suspicion au sein d'un groupe est une bonne méthode pour le fragiliser, créer des dissensions, amener les uns les unes à se désolidariser des autres et empêcher de tirer de la force d'un sentiment collectif. Il existe beaucoup de méthodes de manipulation utilisées pour semer les graines du doute. Cela va du mensonge pur et dur aux insinuations, l'air de rien, concernant ce que tes amis auraient dit ou fait. Même si tu ne souhaites pas y porter attention, le message est capté et intercepté par ton cerveau. Comme ce message est généralement chargé d'affect émotionnel, il ne sera pas simple de l'oublier totalement, et cela même si tu n'y crois pas. Le danger de ces remarques auxquelles tu ne donnes sur le moment aucun crédit repose sur le fait qu'elles peuvent refaire surface au premier signal semblant corroborer ces dires ou dans des moments de faiblesse et d'épuisement émotionnel. Le message a été entendu et enregistré.
Un élément de défense face à cette technique est de rejeter en bloc toute accusation amenée directement ou indirectement par la police sur un ou une de tes proches. Si tu te trouves dans l'impossibilité de vérifier par toi-même une déclaration que te rapportent les enquêteurs-enquêtrices, pars du principe que c'est faux. Il sera toujours temps de revenir là-dessus plus tard, lorsque le danger de l'interrogatoire sera derrière toi. N'oublie pas que, contrairement à tes proches ou co-accusés, les policiers-policières en face de toi ne sont pas tes amis et ne te veulent pas du bien. Leur travail est de t'affaiblir émotionnellement afin de te pousser à faire des déclarations qui leur serviront à remplir leur dossier d'enquête.
Sous-chapitre 6. Rabaisser et dévaloriser. Rabaisser une personne afin qu'elle se sente dévalorisée, mette en doute ses capacités, manque de confiance en elle et développe une dépendance émotionnelle, est un classique dans toute relation toxique ainsi que dans les interrogatoires. Cette technique se pose toutefois en antagonisme avec les stratégies basées sur l'humanisation de la relation enquêteur-enquêtrice-suspect-suspect. Elle sera donc utilisée uniquement lorsque les inspecteurs-inspectrices estiment que cette manière offensive aura plus de chances de réussir que la manière conciliante. Pour t'atteindre, leurs jugements moraux et critiques seront dirigés vers les thématiques qu'ils, elles, savent sensibles pour toi. Ils, elles, peuvent te mettre face à tes contradictions et tes doutes, reporter sur toi la responsabilité de tes erreurs passées et de la situation difficile que tu vis. Ils, elles, vont te pousser systématiquement à penser que tu n'aurais pas dû faire tel ou tel choix et que tu as agi stupidement. Apparaissent alors de puissants sentiments de culpabilisation et de dévalorisation, peut-être déjà présents en toi, mais indéniablement amplifiés par la manipulation policière. En règle générale, il convient de ne considérer aucune critique de la part d'une personne identifiée comme manipulatrice comme étant digne de réflexion. Je ne parle pas ici de critiques constructives, empathiques et bienveillantes venant de la part de celles et ceux qui te veulent du bien. Et là, un scoop. Les flics ne sont pas des amis. Ils, elles, ne se préoccupent ni de ton bien-être, ni de ton développement intellectuel, et n'ont aucun intérêt à t'amener des critiques constructives. Ils, elles, ne sont pas concernés par qui tu es, par ce qui est important pour toi, tes sensibilités, etc. Ils, elles, ont leurs propres intérêts qui n'ont pas de lien avec ta personne, mais uniquement avec leur travail quotidien et le dossier d'enquête. Et lorsqu'ils, elles, te disent le contraire, rappelle-toi qui t'a enfermé dans cette pièce et t'y retiens contre ton gré. Sous-chapitre 7. Exploiter les croyances et sensibilités.
Nous avons tous et toutes un système de croyances, de valeurs et de sensibilités propres à notre parcours et notre éducation, à nos croyances religieuses et spirituelles, de schémas appris et reproduits depuis l'enfance et de modèles que nous montre la société dans laquelle nous vivons. Certaines sensibilités proviennent de nos expériences et ou du travail de déconstruction que nous entreprenons pour nous réapproprier nos vies selon nos propres envies, en rupture avec les normes sociales nous entourant. À l'exception de ce travail de déconstruction, nos croyances s'ancrent tôt dans nos vies et sont rarement remises en question. Lors d'un interrogatoire, identifier tes sensibilités et ton système de valeurs représente un enjeu majeur pour la police. Cela va leur permettre de les utiliser comme levier pour influencer tes émotions et tes sentiments. Par exemple, pour faire naître en toi un sentiment de culpabilité ou de manque de confiance, ils vont essayer de te convaincre que tes actes ont été en contradiction avec tes propres valeurs. Voici quelques croyances classiques de nos sociétés occidentales, inconsciemment intégrées et rarement remises en question. Ce sont des vérités absolues qui ne prennent pas en compte les nuances, contextes et circonstances dans lesquelles elles sont prononcées.
1. Il faut tout savoir, sinon on est ignorant, ignorante et stupide. 2. Il ne faut pas se tromper. Faire des erreurs n'est pas une pratique normale d'une dynamique d'apprentissage, mais est synonyme de stupidité. 3. Il faut montrer aux autres que l'on est cultivé, intelligent, intelligente, intéressant, intéressante, sinon l'on n'a pas de valeur. 4. Pour être valorisé, il faut être compétent, compétente en toutes circonstances. 5. Il ne faut pas changer d'avis, sinon on est instable et non crédible. 6. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Inverse de la norme précédente. 7. Quand on s'engage, on doit absolument tenir parole et aller au bout, même si l'on change d'avis. 8. Il ne faut jamais être ingrat, ingrate et toujours se sentir reconnaissant, reconnaissante de ce que l'on reçoit, même si l'on n'a rien demandé. 9. Si l'on te donne, tu dois automatiquement donner en retour, sinon tu es ingrat, ingrate. 10. Il faut être généreux, généreuse. 11. Il faut être gentil, gentille et aimable, sinon on est méchant, méchante, insensible et agressif, agressive, peu importe les circonstances. 12. Les gens doivent être punis pour leur méchanceté ou s'ils, elles, ne respectent pas les règles. 13. Il faut toujours prendre les bonnes décisions, sinon on est stupide.
Ces valeurs sociales peuvent facilement se retourner contre toi. Par exemple, en montrant que tu es ignorante sur tel ou tel sujet, les enquêteurs, enquêtrices peuvent faire naître en toi le sentiment que tu n'es pas intelligente et ainsi faire baisser la confiance que tu as en toi.
Sous-chapitre 8. Effet de récence.
La technique de l'effet de récence cherche à conditionner inconsciemment une personne grâce à la manière dont est construite une phrase. Notre mémoire retient plus facilement les mots placés en début et en fin des phrases que l'on entend, surtout lorsque ces phrases sont volontairement longues et compliquées, surtout lorsque l'on est épuisé par une session d'interrogatoire qui dure depuis plusieurs heures, surtout lorsque les inspecteurs, inspectrices tentent de nous déconcentrer juste avant de poser la question à travers une attitude subitement agressive ou en lâchant une information jusqu'alors inconnue. Exemple d'un conditionnement positif. C'est bien sûr votre libre choix, même si cela vous donnera un air suspect devant le juge et que c'est connu que seuls les criminels se taisent, de faire usage de votre droit au silence. Exemple d'un conditionnement négatif. Bien que cela vous donnera un air suspect devant le juge, c'est votre libre choix de faire usage du droit au silence, même si c'est connu que seuls les criminels se taisent.
Sous-chapitre 9. Harponnage.
Imagine que tu retires de l'argent en dollars à la banque et que l'employé te dise « Ce n'est pas souvent que des gens viennent retirer des dollars en ce moment. » Ce à quoi, sans y faire attention, tu réponds « Oui, je pars 2 semaines en Floride visiter ma famille. » Sans même que l'on te pose une question, tu transmets 2 informations sur toi. Tu pars 2 semaines en Floride et tu y as de la famille. Cette situation anodine peut être bien plus problématique dans un contexte d'interrogatoire. La formulation d'une simple affirmation plutôt que d'une question dirigée donne l'impression qu'il s'agit d'une discussion sans enjeu, voire même que la police ne cherche pas nécessairement à avoir des informations à ce sujet. L'affirmation peut aussi être dite avec suspicion pour pousser à se justifier.
Sous-chapitre 10. Créer de l'espoir et de la déception.
Faire miroiter une promesse va déclencher chez une personne un processus d'imagination et de projection positive lié à l'espoir de la réalisation de cette promesse. Lorsque cette dernière n'est finalement pas tenue, cela crée une désillusion et une déception. En faisant sciemment des fausses promesses, l'objectif est de pousser à un épuisement émotionnel. La détention en garde à vue ou en préventive est un terrain particulièrement propice à cette technique. Comme tu subis un grand nombre de privations, la police peut te faire miroiter plein de faveurs, coup de téléphone, droit d'avoir un livre en cellule, droit de recevoir des visites, etc., pour finalement créer de la déception en te les refusant. Le processus est encore plus vicieux lorsque les policiers et policières t'accusent d'être responsables de leur refus, et donc de ta déception. Si vous vous étiez montré plus coopérative, nous aurions pu faire un geste pour vous.
Sous-chapitre 11. La porte au nez.
La technique de la porte au nez consiste à formuler une requête exorbitante par rapport aux possibilités et envies de la cible, qui la refusera systématiquement. Cependant, cette première formulation augmente les chances d'acceptation d'une seconde requête, comparativement beaucoup moins grave, mais suffisamment problématique pour qu'elle ne soit pas acceptée spontanément. Dans l'exemple donné plus haut, l'inspecteur demande à la personne auditionnée de lui livrer les noms de ses complices, ce que ce dernier refuse catégoriquement. Pourtant, lorsqu'on lui demande ensuite de raconter les événements en masquant les noms par des surnoms, X1, X2, etc., la même personne répond par la positive. Ce sont là pratiquement les mêmes informations qui sont données, sachant qu'avec les recoupements pour affaire la police, il est fort probable qu'elles arrivent à en déduire des identités réelles.
Sous-chapitre 12. Amorçage et faux marchandage.
Comme technique pour extorquer des informations, le faux marchandage est couramment utilisé par la police. Faux, car les termes sont mensongers et car les promesses dépassent souvent les possibilités même des enquêteurs-enquêtrices. Lorsque les policiers-policières promettent qu'en échange d'informations, ils-elles vont toucher un mot au juge sur ton honnêteté, que la garde de ton enfant ne te sera pas retirée, que tes affaires séquestrées lors de l'enquête te seront rendues, que une telle ne sera pas informée de ce que tu as fait, tout cela est mensonger. La police ne dispose pas de pouvoir d'action et de décision dans ces domaines-là, ni sur ce qui va t'arriver dans la suite de la procédure judiciaire. Ces prérogatives relèvent du ministère public, voire des juges. Il n'est pas rare qu'après avoir soutiré une information à coup de fausses promesses, les inspecteurs-inspectrices modifient les termes de votre accord et te reposent d'autres questions en te menaçant de rompre le marché si tu n'y réponds pas. Cela s'appelle la stratégie de l'amorçage et est terriblement efficace. Tu acceptes un marché car certaines conditions te paraissent acceptables. Au dernier moment, les conditions se modifient, mais tu continues d'accepter cette situation car tu es prise par un sentiment d'engagement. Puisque tu as déjà parcouru un bout de chemin, il vaut mieux continuer que de faire marche arrière. Or, tu n'aurais pas accepté ce marché s'il t'avait été présenté d'emblée sous sa forme finale. Il s'avère malheureusement qu'une personne informée de la réalité des faits après avoir pris une décision sur de fausses bases risque fort malgré tout de maintenir cette décision. Passer un contrat avec la police est une démarche très précaire, car tu ne contrôles rien des éléments extérieurs et tu ne possèdes aucun moyen de pression pour qu'ils, elles, maintiennent leurs promesses.
Sous-chapitre 13. Proposition d'esquive.
Cette technique sert à comprendre si un sujet est sensible pour toi ou non. Les enquêteurs-enquêtrices t'interrogent sur un terrain où ils imaginent que tu as quelque chose à cacher. Après plusieurs questions accusatrices sur le sujet, ils, elles, partent tout d'un coup sur un autre thème, totalement hors sujet, pour tester ta réaction. Si tu réagis avec soulagement et que tu t'engages à ton tour dans le thème qui vient de surgir, cela sera interprété comme le signe que tu cherches à esquiver le premier sujet et que tu as potentiellement quelque chose à cacher. Exemple. Tu étais à Paris lundi dernier ? Non. Allez, arrête de mentir, on le sait que tu y étais. Mais non, pas du tout. Pourquoi mentir ? On sait que tu t'y rends pour voir Louis. D'ailleurs, attends, c'est quoi déjà l'équipe de foot de Paris ? Saint-Gervais ? Saint-Germain ? Esquive. Ah non, c'est le Paris Saint-Germain, le PSG. Ah oui, juste. Ils sont plutôt bien dans le classement, non ? Oui, oui, c'est vrai. Non, esquive. Hein ? Mais on s'en fout, là, non ? Je vous dis que j'étais pas à Paris ce jour-là.